Si, dans l'histoire naturelle, les animaux d'ordre supérieur, l'homme, le quadrupède, sont les mieux articulés, les plus capables des mouvements divers que leur activité leur imprime, si, parmi les langues, celles-là l'emportent qui répondent par la variété de leurs inflexions, par la richesse de leurs tours, par la souplesse de leurs formes aux besoins infinis de l'intelligence, ne jugerons-nous pas aussi qu'en géographie, certaines contrées ont été dessinées sur un plan plus heureux, mieux découpées en golfs et ports, mieux limitées de mers et de montagnes, mieux percées de vallées et de fleuves, mieux articulées, si je l'ose dire, c'est-à-dire plus capables d'accomplir tout ce qu'en voudra tirer la liberté. Notre petite Europe, si vous la comparez à l'informe et massive Asie, combien n'annonce-t-elle pas à l'œil plus d'aptitude au mouvement ? Dans les traits mêmes qui leur sont communs, l'Europe a l'avantage. Toutes deux ont trois péninsules au midi, l'épée carrée de l'Espagne et de l'Arabie, la longue arête de l'Italie et de l'Indostan, avec leur grand fleuve au nord et leur île au midi. Enfin, ce tourbillon d'îles et de presqu'îles qu'on appelle ici la Grèce, là-bas la seconde Inde. Mais la triste Asie regarde l'océan, l'infini. Elle semble attendre du pôle austral un continent qui n'est pas encore. Les péninsules que l'Europe projette au midi sont des bras tendus vers l'Afrique, tandis qu'au nord, elle s'insère comme un athlète vigoureux, de la Scandinavie et de l'Angleterre. Sa tête est à la France, tandis que ses pieds plongent dans la féconde barbarie de l'Asie. Remarquez sur ce corps admirable les puissantes nervures qui se prolongent des Alpes aux Pyrénées, au Crapac, à l'Hémus, et cette imperceptible merveille de la Grèce dans la variété heurtée de ses monts et de ses torrents, de ses caps et de ses golfs, dans la multiplicité de ses courbes et de ses angles, si vivement et si spirituellement accentuée. Regardez-la en face de la ligne immobile et directe de l'uniforme Égypte. Elle s'agite et scintille sur la carte, vrai symbole de la mobilité dans notre mobile Occident. L'Europe est une terre libre. L'esclave qui la touche est affranchi. Ce fut le cas pour l'humanité fugitive de l'Asie. Dans ce monde sévère de l'Occident, la nature ne donne rien d'elle-même. Elle impose comme loi nécessaire l'exercice de la liberté. Il fallut bien se serrer contre l'ennemi et former cette étroite association qu'on appelle la cité. Ce petit monde enfermé de murailles absorba dans son unité artificielle la famille et l'humanité. Il se constitua en une éternelle guerre contre tout ce qui resta dans la vie naturelle et de la tribu orientale. Cette forme sous laquelle les Pélasges avaient continué l'Asie en Europe fut effacée par Athènes et par Rome. Dans cette lutte se caractérisent les trois moments de la Grèce. Elle attaque l'Asie dans la guerre de Troie, la repousse Salamine, la dompte avec Alexandre. Mais elle la dompte bien mieux en elle-même et dans les murs mêmes de la cité. Elle dompte l'Asie lorsqu'elle repousse avec la polygamie la nature sensuelle qui s'était maintenue en Judée même et déclare la femme compagne de l'homme. Elle dompte l'Asie lorsque, réduisant ses idoles gigantesques aux proportions de l'humanité, elle les rend à la fois susceptibles de beauté et de perfectionnement. Les dieux se laissent à regret tirer du ténébreux sanctuaire de l'Inde et de l'Égypte pour vivre au jour et sur la place publique. Ils descendent de leur majestueux symbolisme et revêtent la pensée vulgaire. Jusque-là, ils contenaient l'État dans leur immensité. En Grèce, il leur faut devenir citoyens, quitter l'infini pour adopter un lieu, une patrie, se faire petit pour tenir dans la cité. Ici, ce sont les dieux doriens, là, ceux de l'Ionie. Ils se classent d'après leurs adorateurs. Mais voyez en récompense combien ils profitent dans la société du peuple, comme ils suivent le progrès rapide de l'humanité. La Pallas de l'Iliade est une déesse sanguinaire et farouche qui se bat avec Mars et le blesse d'une pierre. Dans l'Odyssée, elle est la voix même de l'ordre et de la sagesse réclamant pour l'homme auprès du Père des dieux. Et voilà ce qui fait la Grèce belle entre les choses belles. Placée au point intermédiaire où le divin est divin encore et déjà humain, où se dégageant de la nature fatale, la fleur de la liberté vient à s'épanouir, la Grèce est restée pour le monde le type du moment de la beauté physique et encore immobile. L'art grec n'a guère passé la statuaire. Ce moment dans la littérature, c'est Hérodote, Platon et Sophocle. Moment court, irréparable, que la sagesse virile du genre humain ne peut regretter, mais qui lui revient toujours en mémoire avec le charme du premier amour. Ce petit monde porte dans sa beauté même sa condamnation. Il faut que la beauté passe, que la grâce du jeune âge fasse place à la maturité, que l'enfant devienne homme. Quand Aristote a précisé, prosaïsé, codifié la science grecque, quand Alexandre a dispersé la grecque de l'Hellespont à l'Indus, tout est fini. Le fils de Philippe rêvait que le monde était une cité dont sa phalange était la citadelle. La cité grecque est trop étroite pour que le rêve s'accomplisse. Il faut un monde plus large qui réunisse les caractères de la tribu et de la cité. Il faut que les dieux mobiles de la Grèce prennent un caractère plus grave. Il faut qu'ils sortent de l'art qui les retient dans la matière, qu'ils s'affranchissent du dessin homérique dans lequel pèse encore sur eux la main de l'Asie. Il faut que la femme quitte le gynécée pour être en effet délivrée de la servitude. Sur les ruines du monde grec, dispersées, dévastées, reste son élément indestructible, son atome, d'après lequel nous le jugerons comme on classe le cristal brisé par son dernier noyau. Ce noyau, c'est l'individu sous la forme du stoïcisme, ramassé en soi, appuyé sur soi, ne demandant rien aux dieux, ne les accusant point, ne daignant pas même les nier.